Salut les joueuses, salut les joueurs. Nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxys Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxys Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Kurt et je suis accompagné de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Salut Kurt.
Et nous accueillons Gorobei. Bonjour Gorobei.
Salut les gars, ça va?
Très bien. Et
très
toi?
Bien et toi?
Bon, c'est pas mal. Un petit peu d'action, c'est calme quoi.
C'est calme, tu trouves?
Bah,
on est samedi matin là quand même.
Ouais, alors moi j'en fais que deux, mais je les fais très intense quand même. Je vais toute la journée à fond les ballons. Non, deux ça suffira pour moi.
Alors Gorobei, tu es illustrateur. Tu as œuvré à la fois dans le monde du jeu de société, mais aussi dans la BD, peut-être dans d'autres domaines, je sais pas, on en parlera éventuellement.
Yes.
Ok, très bien. Écoute, on va te proposer déjà de démarrer cette interview avec notre fil rouge. Ce sont quatre questions qu'on pose à tous nos invités. Tu vas voir, c'est un mode portrait chinois. Voilà, c'est des réponses assez courtes, mais n'hésite pas à développer si tu as envie de justifier pourquoi.
Ok.
Et si c'est pas le cas, écoute, nous, ça nous intrigue. On te saura peut-être développer un petit peu.
Ah d'accord. Bah, c'est vous les questions hein, après tout.
Si tu étais une mécanique de jeu.
Si j'étais une mécanique de jeu, mince, j'en sais trop rien.
Peut-être un truc que t'aimes bien, tu vois.
Les jeux que j'aime bien. Bah, alors moi j'aime bien les jeux de culture G. Alors,
okay.
Je sais pas trop si.
Un quiz, c'est une mécanique.
Un quiz,
de jeu.
Ouais. Je crée un quiz. Et bah, juste au bon endroit du coup.
Bah, ouais,
non, ok. Quiz, je pense plutôt quiz, ouais.
Ok. Est-ce que du coup, tu te sens assez cultivé, du coup, pour répondre à ce portrait chinois en disant oui, je suis une mécanique de quiz?
Alors, non, je pense pas à ce point. Non. Vraiment, je suis très casual sur le jeu. Alors, je dis quiz parce que pour moi, c'est un truc familial, c'est tranquille, mais c'est aussi les pubs, c'est boire des coups. Okay. Voilà. C'est un truc. Pour moi, c'est plutôt l'aspect. Social tranquille et pas nerveux quoi.
Ok. Donc, t'es un petit peu casual et
très casual.
Public en fait, et partage avec des groupes
complètement.
D'amis.
Complètement. En fait le jeu je le découvre petit à petit via ma fille plutôt. Moi je suis pas un gros joueur du tout. Je suis vraiment mon métier c'est d'illustrer voilà et je découvre le jeu maintenant parce que ma fille a 6 ans et que faut occuper un enfant quand même dans la vie. Hein.
Ok. Et si tu étais un thème de jeu?
Thème de jeu, un univers graphique, genre?
Par exemple, ouais, ça peut être ça.
Je dirais une île déserte, un truc un peu luxuriant, parce que j'ai vécu à l'étranger beaucoup, dans des pays équatoriaux notamment. Et ouais, je serais là-dessus. Peut-être un truc un peu survival, dans la nature.
Tu te sens l'âme d'un Robinson?
En vrai, ouais, un peu, ouais. Ah, alors, ouais. Je pense que je tiendrai pas deux jours, mais grave, c'est. Ouais, ça.
Ok. D'accord.
Si tu étais un élément de jeu.
Un dé de 20. Tu le jettes, tu sais pas sur quoi tu tombes, c'est un coup de bol, quoi. Ou un échec critique, je veux dire, au choix, hein, vraiment. Un dé de 20.
Ça, tu crois que c'est un peu ça, ta vie?
J'ai de la chance, quand même, sur le dé, j'avoue. Mais, ouais, il y a un peu de ça. Alors, c'est toi qui lance ton dé. Si t'as envie de le tourner un petit peu, tu peux. Mais, il y a beaucoup de chance dans le parcours. Oui? Ouais,
d'accord. Et si tu étais un jeu? Tout simplement.
Ah, si j'étais un jeu, je reviens à la première question, je serais un Trivial Pursuit.
Ah, tu dis ça d'un air.
Ouais, mais non, mais parce que chaque fois que je dis aux gens, je pense que c'est probablement le jeu auquel je préfère jouer entre potes et en famille. Tu veux dire, c'est le Trivial parce qu'on se marre bien et on apprend des trucs et on me dit mais il y a tellement mieux que le Trivial. Je fais ouais, mais. Ouais. Voilà, tous les gens connaissent le Trivial,
Est-ce que t'as déjà essayé TTMC? Tu te mets combien?
Mais non. Mais alors, vous me ferez un listing de tout ce qui a mieux que le Trivial, avec plaisir, quoi.
Essaye
vraiment.
TTMC, essaye Opération Zèbre, qui est aussi
okay.
Orienté un
Opération
peu
Zèbre. Quiz. Alors j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que j'ai pas testé.
Ouais.
Ok.
Vous pouvez essayer aussi des trucs comme I Know, que je trouve plus intéressant. On te fera une petite liste de recommandations tu repartiras avec des devoirs.
Yes.
Donc à ce jour, tu es illustrateur d'une dizaine de jeux de société, on va en citer quelques-uns. Moustache, Cadeau, Solstice. Tu as aussi illustré des livres-jeux. Tu as fait la série Pirates chez Macaca Edition. Tu as fait Ocus et Pocus, dont tu es aussi l'auteur.
Sur l'un des trois, oui.
Sur l'un des trois. Alors aujourd'hui, tu présenterais comment ? T'es illustrateur, t'es artiste, t'es auteur ?
Alors moi j'aime à penser que même si on est que illustrateur, on est un peu auteur quand même, parce qu'on apporte quelque chose, on apporte une tonalité. Et alors ça, je le dis surtout pour la bande dessinée, peut-être moins dans le jeu, parce que dans le jeu l'auteur c'est vraiment concepteur de mécanique, et il y a une distinction qui est plus facile à faire entre les deux métiers. Mais moi, je me qualifie comme auteur. Je fais, je participe à l'écriture avec mes collaborateurs. S'il y a des choses à dire, j'ai le droit d'intervenir. Donc, peut-être que je me prends trop au sérieux, hein, je sais pas. Mais non, auteur, illustrateur. Alors, si je dois préciser, je vais dire illustrateur pour que les gens comprennent bien. Mais auteur, illustrateur.
T'es au moins auteur de l'univers graphique que tu crées en quelque sorte. On va dire
complètement.
Ça comme ça.
Et puis, il y a aucun moment je travaille seul dans mon coin tout le temps, quoi. Il y a à chaque étape du travail, je demande aux gens avec qui je travaille ce qu'ils en pensent. Donc et eux font pareil. Pour la BD, je travaille beaucoup avec Seth, qui est un auteur toulousain. S'il me fait une proposition, j'ai le droit d'intervenir, me dire est-ce que ça te va? Je dis non, ça je pense qu'on pourrait le changer, ça pourrait être mieux. Et puis on en discute et c'est un échange. Du coup, je pense que auteur, c'est une meilleure définition, puis ça inclut plus de métiers, parce qu'on n'est pas, pour ma part, je me cantonne pas à faire que du dessin, quoi. En plus, je fais de la couleur. Même coloriste, pour moi, c'est un métier à part, mais qui est un métier d'auteur. Parce que, chacun a son identité dans la couleur. Moi, j'ai une identité pour le trait, même pour la couleur. Pour l'écriture, j'ai des thèmes préférentiels. Auteur.
D'accord.
Oh bah très bien. Donc justement, qu'est-ce qui t'a mené là en fait ? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ?
Dans le jeu ?
Ton parcours en général. Ton parcours d'auteur, d'illustrateur, ouais. Tes formations, comment t'as mis les pieds dans la BD, dans le jeu ?
Ok. Waouh. Alors, depuis tout petit, comme beaucoup d'entre nous qui dessinons, je dessine depuis que je suis tout petit, vraiment. À 10, 11 ans, j'ai eu la conviction que c'est ça que je ferais comme métier.
Ah, quand même, ouais.
Ouais. Peut-être que mon père était un peu moins convaincu, avait un petit peu moins de certitude. Ce qui s'est passé, c'est que, alors, j'ai toujours eu un embonpoint certain, on s'est moqué de moi, ça n'a pas toujours été simple à l'école, et je me suis servi du dessin pour, à la fois me défendre et rire et un peu m'échapper, et en réalité, ça a été un très bon vecteur d'amitié, de trucs. Enfin voilà. Donc je me suis dit, c'est formidable. Après, j'ai vu que c'était aussi un métier. C'est formidable. En plus, je peux aussi en vivre. Donc voilà. 10-11 ans, dans ma tête, c'était calibré comme ça. Et j'ai fait collège, lycée. Et au moment de passer aux études supérieures, c'est là que mon père est intervenu en disant, c'est sympa ce métier de saltimbanque, mais enfin quand même, est-ce que tu veux pas faire un truc un peu sérieux au cas où, quoi. Et fais un master, t'auras une garantie derrière, et ensuite, si vraiment t'y crois toujours à ton truc là, fonce. Et donc j'ai fait un master de langues étrangères appliquées.
Ok. Enfin,
franchement, c'était régalade, même si je l'ai pas fait sérieusement. Bon délire. J'ai fait mes deux dernières années licence master. Je suis parti à l'étranger étudier, donc j'ai pas me plaindre. C'était vraiment un parcours hyper intéressant. Et ensuite, j'ai fait une année à Pivot, qui est une école d'illustration, dessin, qui avait notamment un trop commun dessin narratif, donc vraiment accès BD tout de suite. Et ça, c'est un cursus de 4 ans. J'ai fait qu'un an parce que j'étais déjà vieux, forcément. J'avais fait un master avant. Et au bout d'un an, j'ai fait, je vais monter des dossiers, je vais me confronter à la vie, quoi. Et, okay. Pendant 2 ans, j'ai bien galéré. Je faisais de la comptabilité à côté pour payer les factures. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Mes premiers contrats, c'était dans la presse, c'était avec Chomag et Ankama, et ensuite ça roule tout seul, quoi.
Après, le bouche à oreille, le réseau, en gros, ouais. A fait que
je reconnais que je suis arrivé sans doute à une période un peu faste pour notre métier. C'était l'époque des blogs, internet explosait un peu sur le sujet des illustrateurs, donc c'était vraiment bien. C'était moins compétitif qu'aujourd'hui.
On est quand ?
Comment ça, on est quand ?
Cette période dont tu nous parles.
J'ai fini mon master, j'avais 22 24 ans, 24 26 ans.
Et donc c'était quand?
Donc c'était merde, j'ai trop obligé de dire tout. Chier,
Mais il fallait pas le dire comme ça là, maintenant.
Je me suis mis dans la panade. C'était il y a un peu moins de 20 ans. Un peu moins de 20 ans, ouais.
OK.
Et puis ouais, après ces premiers contrats, j'ai commencé à avoir des gens qui sont venus me contacter qui avaient eux des liens auprès d'éditeurs BD, et puis ça a démarré comme ça. J'ai été repéré via le Festiblog par ma Kéké édition.
D'accord.
Et c'est là où j'ai fait Pirate, première BD dans Vous êtes l'Euro que j'ai réalisé.
Et ça c'était quelle année Pirate du coup?
Wow.
À peu près.
Ah, c'est dur hein, ce que vous faites là. 2012.
Ouais, OK.
2012, si quelqu'un a internet qu'il vérifie tout de suite.
On vérifiera ça. Donc le parcours c'est BD jeu. Le jeu de société est arrivé quand?
Le jeu de société, alors, j'ai eu une première expérience, alors pour le coup, je saurais plus trop le dater, c'était Boomboken, chez Playad Games, j'ai déjà oublié le nom de l'éditeur, un éditeur breton, et ça c'était il y a longtemps, et après, rien pendant un certain temps, et je dirais vraiment, ça a explosé, il y a 2-3 ans.
Ouais.
Il y a 2-3 ans, j'ai commencé à avoir plein de propositions. Alors, je vous cache pas que faire un jeu avec Catala sur la boîte, ça rend beaucoup service. Voilà. Ouais, ça aide un peu. Bah, en vrai, quand j'ai fait Burn aussi, les noms associés étaient. Enfin, j'ai eu énormément de chance. Quoi. Pour le coup, la métaphore du dé de vin, ça marche vraiment bien. Ouais, il y a 2-3 ans. Et depuis, alors j'ai beaucoup travaillé avec anciennement Lumberjack, maintenant Kodama Games. Mm-hmm. Il continue à faire travailler des choses qui devraient arriver. Mais ce qui est nouveau, c'est que j'ai des éditeurs, d'autres éditeurs qui viennent me voir. C'était pas le cas avant.
Donc on vient de regarder Boomboken, on est en 2014.
2014, ouais.
Donc t'as eu
un gros gap, hein.
Un gros gap.
Ouais, ouais.
Et t'as repris donc là au début des années 2020.
Ouais.
Ok.
Et cela dit, Burn, je sais pas quand est-ce que c'était chez Morning. C'est ça aussi, en
2022.
Fait.
2022.
Ah, c'est pas si vieux, ça va.
Voilà.
Mais après, toi, t'as travaillé dessus avant.
J'ai travaillé, ouais. Et puis, alors, le processus de Burn a été un peu longué. Voilà.
Peut-être 2020 même.
C'est peut-être 2020 que j'ai commencé.
Alors, on voulait te demander, justement, à propos de tes différentes activités, illustrer un jeu de société, c'est pas illustrer une BD. Qu'est-ce que ça change?
Alors, en BD, on a beaucoup de temps pour raconter quelque chose, transmettre quelque chose. On fait naître une émotion différemment, je trouve. Et puis on est moins acteur, donc on tient plus la main du lecteur que on tient la main d'un joueur. Et ce qu'on doit faire transmettre dans un jeu, ça a vocation à être plus indicatif qu'émotif, moi je trouve. Ce qui va rendre de l'émotion dans le jeu, c'est la mécanique. Pour moi, c'est comment on vit le jeu. La BD, on la vit pas pareil. Donc c'est ça qui change. Les codifications sont pas les mêmes. Les rythmes sont pas les mêmes parce que dans un jeu, on lit pas quoi. Je veux dire, ce qui se rapproche de plus de l'entre-deux, c'est les livres-jeux. Mm-hmm. Et même là, pour avoir fait l'expérience à l'écriture, j'avais l'utopie de me dire « Ah super, on va pouvoir faire comme dans la BD, faire naître des émotions, transmettre des valeurs fortes ». Pas du tout. Ce qui prime dans le jeu, en réalité, ça restera toujours la mécanique. Donc je me suis vite confronté à ça. J'ai dit « Bon, faut que je sacrifie certaines choses parce que sinon le jeu, enfin, le lecteur n'est plus acteur alors qu'il a besoin de l'être ». Voilà. Moi, c'est ça qui change, je trouve.
Ouais, quelque part, si je comprends bien, dans la BD, l'illustration est vraiment partie prenante dans la transmission des ouais. sentiments. Alors que dans le jeu, pour toi, elle serait plus un support
ouais.
au média numéro 1, qui est plutôt la mécanique qui, elle, est censée transmettre les sentiments. Et du coup, t'es plus au service sur un aspect esthétique et ergonomique. Il y a quand même l'ergonomie aussi qui entre en ligne de compte.
Pour le jeu, oui. Pour le jeu. Oui, complètement. Ouais, ouais. Je pense que faut qu'on s'adapte à ça en premier lieu. C'est ça. C'est exactement ça, si. Ouais. La BD, on a cette liberté, mais parce que on doit faire plus pour aider le lecteur, alors qu'en réalité le joueur, lui, il a besoin d'un peu moins d'aide. J'ai l'impression. Une fois qu'il est dans le jeu, il se l'approprie très vite, quoi. Et enfin, si je prends l'exemple de Uno, qui a pas changé les règles de Uno, quoi. Franchement.
Qui joue avec les bonnes règles de Uno.
Ouais, déjà, ouais. Qui joue avec les bonnes règles de Uno, quoi.
Qui a lu les règles de Uno.
Voilà. Et puis pour reparler de Trivial Pursuit, c'est pareil. Moi, je change les règles. Si je fais ça avec des potes, j'appelle ça le Trivial Pursuit. Je vous le dis tout de suite, quoi. Donc bon, c'est ça. Hein, je trouve que le jeu, le travail que j'ai moi à y faire, c'est, faut que ça corresponde à l'ambiance qui est réclamée, exigée par la mécanique. Et puis faut qu'elle parle au plus grand nombre pour qu'on puisse s'y plonger et se l'approprier.
Alors disons qu'un éditeur arrive, bonjour Gorobei, on a une idée de jeu, ton style nous plaît, toi le jeu te dit ok, ça me va bien. Comment tu fonctionnes à partir de là? T'as besoin de lire les règles en entier? T'as besoin qu'on t'explique? T'as besoin qu'on te dise j'ai besoin de ça sur la couverture, ça dans le livret, ça sur les cartes? Comment ça marche?
Alors, en général, quand l'éditeur m'approche, ils ont déjà quand même pas mal calibré tout ça. C'est parce que c'est quand même, il y a pas mal de trucs à respecter, au-delà des mentions légales. Il y a les présentations des règles, en effet, comment ça doit être fait. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont déjà...
Tu les lis en entier, toi, systématiquement, les règles, ou t'en as pas besoin?
Alors, on me les énonce.
Ouais.
Mais, non, j'en ai pas impérativement besoin.
Ok.
Si ça s'est déjà présenté, je réfléchis. Est-ce que techniquement, il a fallu que je change quelque chose absolument pour les règles? Non, je suis pas sûr. Vraiment, l'éditeur arrive avec, j'ai eu que des éditeurs qui sont avec des briefs bien faits. Voilà, ça, c'est super cool. Donc de ce côté-là, c'est bien. Est-ce que j'ai besoin de lire tout? Non. Est-ce que sur la couverture, c'est l'endroit où on parle le plus. Pour plein de raisons, pour des raisons commerciales, déjà.
Il faut que le titre soit à tel endroit, le nom des auteurs soit à tel endroit.
Faut qu'il y ait une certaine taille, faut qu'on voit plus tel élément ou tel élément, et c'est là aussi où moi je peux défendre plus de choses parce que visuellement il y a des choses je sais que ça marche et d'autres qui marchent pas. Après c'est les années de travail, quoi.
Ouais. C'est vrai que la couverture c'est hyper important dans un jeu de société. Elle annonce, c'est un peu la bande annonce quelque part. Tu vois, qu'on pourrait faire l'analogie avec les films, c'est la bande-annonce, ça annonce un peu ce que va être le jeu. Du coup, si t'as une illustration qui a rien à voir, typiquement, je sais pas si t'as déjà remarqué, mais il y a des tropes dans le jeu de société. Les jeux de construction, tu vas avoir un personnage au premier plan, sur la gauche ou sur la droite, qui va regarder au loin, un paysage dans lequel il y a des bâtiments qui ont été construits. Tu sais que t'es dans un jeu où tu vas construire des trucs, tu vois. Du coup, il y a ça.
Il y a des codes, hein. Oui, oui. Ouais. Oui, il y a des codes. On essaie de respecter. On a envie de changer des choses. Et puis, alors, faut pas oublier quand même que moi, ce que j'ai pu noter, parce que même si ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le jeu, ce que je constate, c'est que un jeu avait pas absolument besoin d'être très beau pour être bon.
Complètement, oui.
Voilà. Non, mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que on attend, en plus d'être très bon, d'être très beau.
Oui.
La place de l'illustrateur a grandi et notre pouvoir d'intervention aussi. Donc on a plus de choses à dire et puis faut tenter aussi de casser les codes parce que les codes une couverture de jeu de construction, on a vite fait de les confondre, hein.
Ouais,
et c'est vrai dans la BD aussi. Si je vais dans une librairie là tout de suite, je pense que je peux trouver 10 couves qui se ressemblent et je vais tout de suite savoir, ah, ça parle de vin. C'est tout, quoi. Mais c'est comme ça.
Ouais. Et à l'inverse, un jeu moyen, il peut être sauvé par une bonne illustration, une bonne direction artistique, en fait.
En vrai, je pense que oui.
Ouais.
Je pense que oui, parce que si quelqu'un d'un peu, pas très avisé, typiquement, je vais me prendre moi comme exemple, casual, mon premier réflexe, c'est d'aller voir un beau jeu.
Ouais.
Voilà, et c'est pareil pour la BD. Mais ce qui se passe, c'est est-ce que j'ai le temps de l'ouvrir, de me renseigner, demander toutes les règles dans le magasin en question, voilà. Et ça, c'est à chaque individu de faire son travail. Moi, je conseille de dire, vous trouvez le jeu ou la BD belle, vous le regardez, mais renseignez-vous avant de l'acheter, parce que ça se trouve, il va être mauvais, hein.
Alors c'est plus facile en magasin d'ouvrir une BD, feuilletée qu'un jeu. Mais
alors normalement si on va dans un bon magasin de jeux, alors moi je suis à Toulouse, je vous avoue, je vais souvent plutôt au passe-temps. Mm-hmm. Les gens sont super, ils prennent le temps de nous expliquer, ouais. Et puis ils donnent leur opinion aussi parce que chaque joueur est différent, c'est pareil. La valeur du conseil est essentielle. Alors, d'autant plus dans le jeu que dans la BD, parce qu'en effet la BD, je peux l'ouvrir, je peux la feuilleter, c'est plus dur pour le jeu.
Tu disais tout à l'heure que l'illustration, elle doit répondre quelque part à la mécanique.
Ouais.
Du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser un projet parce que tu trouvais que t'étais pas en mesure de répondre, que ton style finalement allait peut-être pas avec la mécanique ?
J'ai pas refusé de jeu. Jusque-là, on est venu, on m'a bien ciblé, je trouve.
Ouais.
Ouais. Non, j'ai pas refusé de jeu. Et puis à chaque fois, c'était des univers qui me plaisaient. On m'a pas demandé de changer mon style. Ça, pour le coup, c'est des choses qui me sont arrivées en BD où on m'a demandé de dessiner plus réaliste. J'ai fait mais pas du tout. Je fais des bonhommes ronds. Dans le meilleur des cas, je fais du semi-réaliste, mais je suis plutôt à mi-chemin entre le manga et le cartoon. Et encore, je suis même pas sûr que c'est la bonne définition. Mais en BD, j'ai refusé en BD. Dans le jeu, non.
D'accord.
Je pense que je suis suffisamment identifié pour que les gens se trompent pas et qu'on fasse pas faire un jeu de hardcore gaming, pas du tout moi quoi. Si un mec vient pour ça ou alors c'est un bon délire. Peut-être
après,
que je dirais oui, du coup je serais bon délire.
Après cela dit, je sais pas si t'as vu Sweetland.
Non.
Peut-être un petit je sais pas, bon c'est pas mon domaine hein, là il nous faudrait Elodie qui est l'experte de tout ce qui est illustration, je sais, en sémiologie je crois, c'est comme ça qu'on dit. Non. Bon, c'est pas grave. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'assez proche dans ce qui est fait sur Sweetland, qui est un jeu expert et tout, mais qui se présente sous des attraits. En fait, c'est de la pâtisserie, tu vois. C'est, voilà.
En jeu type expert.
Ah ouais, ouais.
Ah ouais, audacieux. Ouais. Ah bah j'irai voir parce que je connais pas du tout.
C'est peut-être pas très très loin en plus de là où tu te trouves chez Macaca.
C'est vrai.
Ouais, je te flécherai, je sais pas. Après, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Enfin, tu vas arriver, tu vas dire non mais rien à voir avec ce que je fais.
Il me dit n'importe quoi. Il est n'importe fou, quoi. Sirius, quoi.
Et donc pour toi l'idéal, c'est un éditeur qui va te dire voilà, on va faire un jeu, ça parle de montagne, ou un jeu qui va te dire je veux ça là, très très cadré, très très précis.
Pour un jeu, je préfère qu'on me dise ça là. Parce que à la fin, il y a quand même des contraintes techniques. Si moi je me laisse à faire, si je me laisse à l'inspiration et à l'envie du moment je vais pas coller, on va dire ouais, mais enfin là, ta montagne, elle est coupée pas du tout au bon endroit sur le jeton, c'est n'importe quoi. Ah ouais, mais moi j'étais relax, je me suis fait une belle illustration. Non, c'est pas possible. Donc je préfère répondre aux premières contraintes qui sont exprimées de façon très détaillée, et ensuite une fois que ça s'est bien défini, là je vais rajouter des choses si j'ai envie, s'ils veulent bien.
Donc c'est pas tant des contraintes qu'un cadre.
Pardon ?
C'est pas tant des contraintes qu'un cadre en fait.
Ouais.
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 Et donc personnellement, tu préfères toi bosser sur quel support ?
Entre la BD et le jeu ?
La BD, le jeu, la BD jeu.
Alors c'est rigolo parce qu'hier j'ai croisé Benoît Turpin vite fait dans les couloirs là. Et je lui disais, j'ai beaucoup de jeux en ce moment, je trouve ça super, c'est très créatif, mais du coup, j'ai beaucoup moins de BD. Et donc là, pile en ce moment, si on me demande, je préfère la BD.
Ouais,
parce que j'en ai moins.
Ça,
ouais, ça me manque un peu. Mais je suis sûr, d'ailleurs, ce que je lui dis, je suis sûr que si demain, je fais 3 BD dans l'année et un seul jeu, je dis, le jeu me manque. C'est deux exercices très différents, j'aimerais un équilibre en vrai. Et pour tout dire, Depuis la fin d'année dernière, j'illustre des romans jeunesse, donc c'est encore un travail différent que j'avais jamais fait. Exercice super rigolo aussi. Donc si je pouvais tout avoir, mais bien dosé, ce serait parfait, sauf que je peux pas décider de tout.
Et donc justement, à travail équivalent, mettons, tu travailles un mois sur un projet, c'est des chiffres...
Ouais.
Qu'est-ce qui te rémunère le plus ?
Oh la vache. En vrai, aujourd'hui, c'est quand même assez similaire dans mon cas. Je pense à... Ouais. C'est assez similaire. Et après, ça dépend des modèles économiques et des contrats. Je dirais, si dans le jeu, on se rapprochait de ce que fait la BD, à savoir des droits d'auteur ou des royalties d'office pour les illustrateurs, probablement que le jeu rémunérerait mieux.
Ben justement, dis-nous en plus, comment le modèle économique de la rémunération dans le jeu ? Comment ça te paye ? C'est un forfait au début ? Tu vas être repayé en fonction des rééditions, ça va être en fonction du nombre de ventes.
Alors, ce que j'ai eu le plus commun, je pense que c'est un fixe, donc c'est un forfait. Point. Ça,
que
c'est vraiment le truc.
Tu as établi au départ, tu fais un devis, tu dis il y en aura pour tant, et
ouais.
Voilà quoi.
Ouais. C'est validé, et puis on est payé tant à la fin du travail exécuté.
Et si ça dépasse un peu, parce que t'as dû refaire des trucs et tout, ça arrive à renégocier ?
Alors, c'est prévu dès le départ.
Normalement, il y a un process qui empêche ça. Si je me retrouve dans le cas de figure où on me dit, autant pour nous, on change complètement d'univers, on s'est trompé, c'est pas des dragons qu'on veut, mais en fait c'est des oiseaux. Je fais bah oui, ouais. Attends, excusez-moi, je vais vous refaire un devis quand même. Bon, ça c'est pas arrivé. J'ai eu un cas qui ressemblait un petit peu à ça, mais on n'était pas dans ces proportions. Et puis surtout, ça a été fait assez tôt dans les étapes de création. Parce que quand même, il y a un brief. S'ils sont trompés sur le brief, quand même, voilà, c'est pas sérieux quoi. Mais il y a un brief. On valide, je fais des croquis, on valide, et ainsi de suite. Donc normalement,
il y a suffisamment d'étapes pour s'éviter ce genre de problème.
Ah ouais, oui, parce que sinon, alors pour le coup, la fois où ça m'est arrivé, c'était pour un travail de com pour KFC. J'avais fait des midi BD pour les BD enfants, pour les menus enfants, et là, il y avait vraiment, ils me demandaient des retakes, enfin des retouches à des moments où moi j'avais tout livré quoi. Ils ont tout validé, tout fait, ils ont fait oh. Excuse-nous, en fait, en page 10, case 2, on voudrait pas qu'il se passe ça dans la case. Je dis, ouais, bah, pas de problème, je vous fais une facture. Et, ouais. Les BD d'après, ils ont été plus sérieux. Ouais. Donc, en général, je vais surfacturer si, on est au-delà de la retouche cosmétique. Ça, c'est le truc. Ouais. Et puis voilà. Et alors, pour revenir sur les modèles économiques, ce qu'il y a dans la BD, c'est, on a une avance sur droit ou un avaloir, tout dépend comment c'est fait. Et une fois que le nombre de ventes a remboursé cette avance sur droit, on commence à toucher des droits d'auteur.
Il y a une différence avec, tu dis, un avaloir.
L'avance sur droit, on va le toucher tout de suite. L'avaloir va y avoir un décalage plus important.
Ah d'accord, mais c'est le même principe. Sinon,
mais c'est le même principe. Ça doit toujours être remboursé par les ventes et ensuite on touche des droits d'auteur. Et là, le pourcentage de droits d'auteur varie d'une maison à une autre. Voilà.
Et est-ce que tu penses que justement le jeu de société va avoir une rémunération en visibilité? Je veux dire, est-ce que tu penses que des gens qui vont aimer Gorobei, illustrateur de BD, vont se tourner vers les jeux parce que c'est toi qui as illustré, ou des gens qui en partant du jeu, ils restent intéressés à tes BD? Alors, ou c'est vraiment, où il n'y a pas du tout de transmédia et c'est vraiment étanche?
Moi, mon appréciation aujourd'hui, c'est que c'est étanche.
Ouais.
Ouais, je pense que, alors je dis pas que les joueurs sont pas lecteurs, les lecteurs sont pas joueurs, mais c'est vraiment, c'est deux univers très différents. L'exemple que je peux donner pour dire à quel point c'est différent, c'est que quand je vais en dédicace, je vais sur le festival, par exemple si je viens à Cannes, les gens viennent pour s'amuser, pour jouer. Donc au niveau de l'ambiance, c'est très difficile. Les gens sont très relax. En BD, ils viennent avec un objectif très précis. Alors pas tous, hein, mais on peut les voir. Il y a des collectionneurs qui font la queue pour une dédicace, tout ça. Donc c'est des ambiances différentes. Donc je pense que pour l'instant c'est deux univers où il y a pas de trans, c'est pas transversal du tout. Quoi. Maintenant je constate quand même que sur les derniers festivals que j'ai pu faire BD, il y a des joueurs qui sont venus.
Quand même.
Okay, ouais.
Quand même.
Alors que j'ai pas vu de gens avec des BD qui sont venus pour le jeu pour l'instant.
Effectivement. Et donc aujourd'hui, tu vis que de ça. T'en vis bien, peut-être pas, mais ou bien t'en vis bien, ou tu vis que de ça.
Je vis que de ça. Ouais. Moi, je fais que l'illustration, que ça. Voilà. Réponse courte, efficace.
Tu disais tout à l'heure justement que peut-être l'illustration pouvait sauver un jeu de société moyen. Tu milites aujourd'hui pour effectivement avoir des royalties en tant qu'illustrateur.
Ah ouais. Ah oui. Oui, oui. Je pense, de ce que j'ai compris, on peut faire du name dropping ou pas du tout?
Ah bah oui, tu es libre de dire
si
ce que
tu veux. Si je prends le groupe Asmodée, de ce que je comprends, c'est pas du tout dans la politique de faire du droit d'auteur et du royalties pour l'illustrateur. Alors c'est peut-être pas vrai pour tous les illustrateurs. J'imagine qu'il y a des superstars peut-être qui ont.
Il y a Dixit, je crois, qui va sur un modèle royalties.
Ouais, mais ce qui est logique. Enfin, je dis logique pour Dixit, mais logique pour tous les jeux. Ouais. Parce que si un jeu marche bien, il y a quand même une logique. Est-ce que tous les auteurs et toutes les parties prenantes récupèrent une part sur le long terme? Si c'est un jeu qui s'installe, je peux faire gonfler ma facture. S'ils en vendent 150 000, 200 000, 300 000 boîtes, la facture n'aura jamais été assez grosse.
Ouais.
Et ça, je peux pas l'anticiper. Personne peut le faire. Donc, en réalité, le droit d'auteur, je trouve que les royalties, c'est assez juste pour tout le monde. Maintenant, Asmodée fait ça, de ce que je comprends, et je comprends mieux pourquoi. Ils sont aussi dominants aussi, quoi. S'ils peuvent réintégrer dans leur groupe autant de maisons, peut-être qu'ils paient assez de droits d'auteur aux illustrateurs. Hein.
Et quand tu signes un contrat d'illustration avec une maison d'édition de jeux de société, t'as des clauses France, internationale, parce que souvent les jeux, quand ils vont changer de pays, ils vont changer de distributeur, d'éditeur, ce genre de choses. Comment ça se passe?
Alors, on touche quelque chose.
Ouais.
Ouais. Pour impression à l'étranger, alors il y a des droits. Ouais, si.
C'est pas... tu peux quand même retoucher si t'as un contrat à la base où t'as fait des illustrations pour un rayonnement France ou je sais pas francophonie, j'en sais rien, Europe.
Ouais.
Si jamais le jeu est exporté, il va être localisé, j'ai n'importe quoi, aux États-Unis. Toi tu peux retoucher quelque chose quand même.
Ah, moi, je peux retoucher.
même dans un principe de forfait au départ.
Ah oui. Ouais, okay. Oui. Alors par contre, enfin je regarde mieux mes contrats sur le portage à l'étranger. J'aurais peut-être pas de droit d'auteur. Par contre, à l'impression, c'est une cession de droit. Donc j'en touche quoi.
D'accord. Voilà. Oui, en fait, au départ, tu as cédé tes droits sur tes illustrations pour une utilisation sur un territoire donné. Et étant donné que ça part sur un autre territoire, il faut que tu recèdes tes droits.
Ouais, je retouche une partie. Voilà.
Okay.
Très bien. Et tu sens quand même, alors même si tu nous as dit que de ton point de vue, tu n'étais pas dans le milieu du jeu de société depuis très longtemps, même si ça va quand même faire avec une dizaine d'années avec tes premières expériences, tu sens une professionnalisation dans ce niveau-là du... Ouais.
Oui.
Tu peux développer un peu.
Alors. Oui, et moi je le vois via les je vais faire le comparatif avec la BD encore avec les syndicats.
Mm-hmm.
Les syndicats en BD, il y en a deux, il y a celui des éditeurs, il y a celui des auteurs, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils travaillent pas tellement ensemble, même s'ils essaient hein, c'est pas ça que je veux dire, mais on voit que c'est deux entités qui parfois sont plutôt dans la confrontation, et ce que je vois avec le jeu, c'est que non.
Et du coup, quand tu parles dans la BD d'un syndicat des auteurs, tu parles bien d'un syndicat des auteurs rassemblant les scénaristes et les illustrateurs.
Oui.
Ouais,
oui,
complètement. Et coloristes.
Et je pense même que dedans doit y avoir les écrivains.
Ok.
Ok.
C'est fort possible. Mais voilà, ce que je constate, c'est que il y a une volonté. Ce que j'aime dans le jeu de ce côté-là, c'est qu'il y a une volonté que tout le métier avance dans la même direction et y gagne. Je dirais que le modèle capitaliste est fort, mais il est un peu sous contrôle, quoi. Dans la BD, le modèle capitaliste est juste fort. Voilà, on fait du volume, on fait des ventes, l'éditeur se survit bien si, bon, voilà, c'est, on arrive au bout de quelque chose. Ma crainte, c'est que le jeu, malgré tout, fonctionne un peu de la même manière dans le sens où il y a énormément de jeux, il y a beaucoup de volume, et pour une grosse boîte, je vais reciter Asmodée, s'ils ont un succès, ça peut payer tous les non-succès des autres, et puis ils continuent. Et dans la BD, c'est exactement ça. Et ça a apparu à l'époque Soleil et Mourad Boudjelal, qui a eu un petit peu cette façon de faire du business. Alors, ça a des vertus, mais ça laisse des gens sur le côté. Voilà.
Ouais, ça vient dominer le marché.
Complètement.
Ça noie les petits éditeurs dans le marché complet. Quoi.
Ils vont avoir du mal à exister, et puis ils vont avoir du mal à exister longtemps, quoi. Bon.
Et je voudrais qu'on aborde quand même si c'est rapidement, un sujet qui est émergent mais qui prend une place de plus importante.
L'intelligence artificielle,
justement pour toi, ou même menace, outil, non sujet.
Ou autre, hein, t'as le droit à d'autres
options. Oui, bien sûr.
Alors pour notre métier, j'en ai parlé hier. Mais alors moi, je pense que pour l'instant, en l'état, c'est une menace parce que, c'est une menace. C'est pas légiféré. Il y a quand même un gros vide qui est exploité où en réalité les auteurs se font voler. Donc c'est pas juste l'idée que on va plus exister parce qu'on servira plus à rien. C'est juste parce qu'on se fait l'auteur se fait voler. Donc on continuera d'exister, sauf que on sera pas payé. C'est tout quoi. Mais on aura toujours besoin d'exister parce que l'IA se nourrit de ce qu'on fait. Donc et au bout d'un moment, si elle tourne en rond, elle fera plus rien. Donc, on peut peut-être passer par là. Tout le monde se meurt, et puis c'est super. Et c'est pareil pour les doubleurs, quoi.
Oui.
C'est le même principe. On leur dit non, mais on a plus besoin de vous. Avec combien de temps? Je veux dire, non, c'est une menace. Et à la fois, je peux très bien dire que c'est une vertu, mais pas pour ces métiers-là. Ce que je trouve stupéfiant, moi, avec l'IA, c'est qu'on sait que c'est un outil qui peut faire des choses incroyables. J'ai pas de problème avec ça. Bah, notamment sur des domaines scientifiques, même de la santé, on l'a constaté. Mais, nous, humains, notre réflexe, c'est pas ça. C'est de se dire, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un faux artiste sur Spotify. Je vais faire une musique en IA. Et puis, je vais toucher des droits, qui reviennent à personne, sinon Spotify. Mais ils ont volé les sons, quoi.
Je discutais hier avec quelqu'un de l'équipe, alors j'avoue, je ne sais plus qui, désolé, mes chers camarades, qui me faisait une remarque intéressante. En fait, si on est dans un cadre légiféré, voilà, donc, et donc non pas des IA ouvertes sur le réseau mondial à pouvoir aller piller à gauche à droite, mais imagine t'as ton IA à toi qui te permet à toi de, bah toi tu peux entre guillemets l'éduquer avec ton style, voilà, et lui dire bah écoute vas-y est-ce que tu peux déjà me préférer un décor. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te paraîtrait envisageable ou tu serais pas volé, mais ça deviendrait un outil pour toi.
Et c'est juste
concevable.
Et c'est pour gagner en productivité, quoi.
Oui, clairement, ouais. Oui.
Mais qu'est-ce que je transmets moi comme émotion? Je fais un prompt, je deviens écrivain, quoi.
Ah, ça empêche pas. Enfin, j'imagine. Voilà. Bon, j'ai pas poussé la réflexion jusqu'au bout, hein, mais j'imagine derrière que évidemment c'est pas une illustration finie que ça te donnerait, mais toi derrière tu pourrais, j'imagine, lui confier des tâches un peu chiantes et.
Je peux faire ça, mais j'arrête d'évoluer, j'apprends plus rien. J'ai plus de plaisir à le faire non plus. Et je pense que je transmets plus rien parce que ce que je vois dans l'IA, d'abord ça fait des choses spectaculaires à s'y méprendre, quoi. Vraiment, c'est impressionnant. C'est un outil de plus en plus puissant, mais il y a quand même un truc. Il y a pas de chaleur encore dessus, je trouve. Peut-être que ça changera parce que ça apprend vite. Je pense que ça c'est une réalité. Mais moi, je poserais plutôt la question aux gens qui utilisent l'IA, mais est-ce que vraiment vous kiffez le faire, quoi? Est-ce que c'est du plaisir pour vous? Est-ce que vous transmettez vraiment quelque chose? Parce que moi, je pense que les auteurs, ce qu'on fait quand on le fait, c'est quand même parce qu'on est heureux de le faire. On a envie de rendre les gens heureux. C'est-à-dire, quand je parlais de transmission tout à l'heure, je pense que c'est ça en premier. C'est ça qu'on veut faire. L'IA, moi, me transmet pas grand chose, quoi. À part si elle me fait une vidéo rigolote où le mec il fait dire ah, est-ce que c'est un beau dunk et tout, il fait 3 sauts périlleux et tout, je dis ah, c'est marrant, mais c'est tout, quoi. C'est pour moi, c'est gadget aujourd'hui, l'IA, en tout cas pour mes domaines, c'est gadget, alors que ça ne pourrait pas l'être. Donc je suis à la fois, c'est une menace et une vertu.
Ok,
est-ce que tu veux aborder un projet que tu aurais qui serait en cours, qui sortirait bientôt?
Alors, j'ai dans la tête de Monsieur le Prof 2 avec William Laffer qui sortira, donc c'est une BD dont vous êtes le héros, qui sortira en avril, donc on est bon. Qu'est-ce que je peux en parler? On va faire un voyage à Londres, on va peut-être perdre des élèves, vous choisissez de les récupérer ou pas. Peut-être que certains méritent pas, vous verrez. Donc ça, ouais, ça sort en avril. Et en mai, chez Ozu, toujours avec William Laffer, on a fait un jeu de cette famille un peu retravaillé où ça se passe dans les classes. C'est un ancien prof, donc ça se passe dans les classes forcément. Et on a rajouté des petites règles pour que ce soit un peu plus interactif que juste est-ce que je peux avoir mamie, voilà.
T'as participé à ces règles là ou tu dis on au sens
aux règles? Il a écrit les règles, on en a parlé, on a testé, mais et après, lui, il est intervenu sur pour me dire ce personnage-là, je le verrais plutôt comme ça. Et le process est toujours le même, c'est des allers-retours. Okay.
D'accord.
Eh ben, écoute, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Amusez-vous, jouez, et puis faites pas tout à l'IA, quoi. Demandez pas à ChatGPT d'écrire vos mails, ça sert à rien. Vous êtes très bons, vous êtes tous très bons. Ok.
C'est bien noté. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.